Avec vous, Jean-Pierre Blimeau, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Ce sera donc France, Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby.
Et oui, les Gallois qui ont remporté leur dernier match de poule face à l'Uruguay, 35-13. Et les Gallois qui terminent en tête du groupe D, c'est un classique qui nous attend. Jérôme Val, vous êtes au Japon, l'envoyé spécial de France Inter pour cette Coupe du Monde.
Et une affiche qui fleure bon le tournoi des 6 nations, mais aussi le piège pour une équipe de France qui n'arrive plus à battre le 15 du Poirot. Une seule victoire sur les 8 dernières confrontations. Autant dire que les Bleus ne partent pas avec le costume du favori pour ce quart de finale. D'autant que les Gallois ont fait un sans faute dans cette Coupe du Monde pour l'instant. 19 points pris sur 20 possibles en dominant au passage l'Australie. Même si le match de tout à l'heure contre l'Uruguay a été imparfait, avec, il est vrai, une équipe largement remaniée, les Gallois ont maintenant une semaine pour se préparer après avoir enchaîné 3 matchs en 10 jours. Les Français, de leur côté, ont un peu plus de temps, mais manqueront sans doute de rythme. Même si tout à l'heure, en conférence de presse, le sélectionneur Jacques Brunel s'est voulu offensif en précisant qu'il voulait faire un parcours sur la trace de ses prédécesseurs.
Alors Jérôme, les affiches des quarts de finale sont maintenant connues. Il ne restait plus qu'un ticket. C'est donc le Japon qui l'a validé en dominant l'Écosse 28-21 aujourd'hui. Première qualification de l'histoire de cette nation en Coupe du Monde de rugby et qui plus est dans une journée vraiment particulière.
Et oui Jean-Pierre, le Japon a offert le meilleur des réconforts à ses supporters. Cette qualification historique qui vient donner un peu de baume au cœur à une population meurtrie par le passage du typhon Agibis. Qualification méritée sur le plan sportif pour un match qui a failli ne pas se jouer. Le Japon engrange 4 victoires en 4 matchs, dont une qui a frappé les esprits face à l'Irlande. Les Brave Blossoms, le surnom de l'équipe, ont une nouvelle fois séduit par leur jeu, du mouvement, de l'audace. Et même s'ils se sont fait peur en seconde période avec un retour des Écossais, les Japonais, soutenus par leur public, n'ont pas tremblé. Alors le plus dur commence maintenant avec ce quart de finale contre l'Afrique du Sud, l'équipe qu'ils avaient battue il y a 4 ans lors du précédent mondial. Et ils rêvent bien sûr de récidiver pour leur Coupe du Monde.
Merci Jérôme. Alors on rappelle les quarts de finale. Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, ce sera samedi prochain. Et puis dimanche donc, France, Pays de Galles et Japon, Afrique du Sud. France, Pays de Galles débutera dimanche à 9h15.
Il va falloir se lever tôt. Pendant la Coupe du Monde, le championnat de France ne s'arrête pas. Jean-Pierre, la 7e journée du top 14 s'achèvera tout à l'heure.
Oui, avec l'affiche du week-end à 21h, Bordeaux, deuxième au classement, qui accueillera Clermont. Et puis en fin d'après-midi, le Stade français, dernier et bien mal en point, accueillait Toulon. Victoire des Parisiens à l'arraché, mais victoire importante, le deuxième succès de la saison pour le club de la capitale, 33-30.
Alors venons-en aux qualifications pour l'Euro 2020 de football. Maintenant, l'Italie a validé son billet hier soir. La France pourrait en faire de même dès demain.
Oui, après le succès des Bleus 1-0 en Islande vendredi, les Français accueillent en effet la Turquie demain soir au Stade de France à 20h45, avec cette possibilité de valider à leur tour leur billet pour l'Euro. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Jean-Pierre.
Les tricolores sont à Enghien-les-Bains, d'où vous revenez, Enghien où ils ont pris leur quartier ce week-end depuis leur retour en Islande, avec un mot d'ordre, la récupération.
Oui, exactement. C'est le maître mot de ces dernières heures pour les Bleus. La France qui a joué vendredi soir en Islande et qui n'est rentrée qu'hier soir seulement de ce long déplacement. Donc l'objectif premier, c'est effectivement de régénérer les organismes des joueurs qui étaient sur la pelouse islandaise vendredi soir. Didier Deschamps, le sélectionneur national.
On fait en sorte, et c'est valable pour mon homologue aussi, et même si tu peux jouer le premier match à domicile et te déplacer le deuxième, 3 jours, c'est peu, parce que les voyages peuvent être plus ou moins longs, donc évidemment c'est axer tout sur le premier, et après faire en sorte d'optimiser la récupération. Voilà, on est arrivé hier et aujourd'hui on éveille de match, donc voilà, les questions que je peux me poser... Mon homologue turc va se les poser aussi, le fait d'enchaîner, il fera des changements, peut-être, j'en ferai, en ayant une analyse la plus approfondie par rapport aux joueurs dont il dispose. Mais c'est, je vous assure qu'en termes de séance d'entraînement, c'est très limité, quoi.
Voilà, séance allégée, vous l'avez compris ce soir sur la pelouse du Stade de France. Avant ce match, vous le disiez Jean-Pierre, qui peut, s'il y a un vainqueur, l'envoyer à l'Euro 2020, match qui va se dérouler à guichet fermé, avec... Alors les sources varient, hein, 30 000, 40 000 Turcs attendus demain soir au Stade de France. Dans un contexte géopolitique forcément particulier, des mesures de sécurité renforcées. Mais ni Raphaël Varane, ni Didier Deschamps, qui étaient invités à s'exprimer devant la presse ce soir, n'ont voulu s'étendre sur le sujet.
Merci Cédric Guillou et le coup d'envoi, c'est 20h45 demain soir.
En foot, par ailleurs, peut-être bien une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain.
Eh oui, Neymar, qui disputait aujourd'hui un match amical contre le Nigeria à Singapour, est sorti du terrain en se tenant la cuisse gauche. Alors, contracture, élongation, plus grave, déchirure. Il est encore trop tôt pour savoir si le Brésilien est de nouveau sérieusement blessé ou pas. En tout cas, Neymar pourrait ainsi manquer son retour en Ligue des Champions qui était programmé sur la pelouse de Bruges le 22 octobre prochain.
En gymnastique, les championnats du monde s'achèvent en Allemagne. Bilan pour la France, une seule médaille, mais surtout une jeune américaine qui a de nouveau crevé l'écran.
Son nom, on l'a dit et répété, elle s'appelle Simone Biles, un quadruple championne olympique à Rio. Elle a profité de ces championnats du monde pour détenir le nouveau record du nombre de médailles mondiales dans ces championnats. Un record qui datait des années 90, 23 au total. Eh bien, elle en a 25 désormais, Simone Biles. Ses 18e et 19e titres, elle les a acquis aujourd'hui. Son entraîneur est français et il s'appelle Laurent Landy.
C'est la marque des champions, quoi. C'est que même avec tant de pression sur leurs épaules, eh ben, ils arrivent quand même à gérer la pression un petit peu mieux que certaines d'autres, parce que à ce niveau-là, au championnat du monde, il y a beaucoup de filles qui ont beaucoup de potentiel, mais il faut savoir le gérer, il faut savoir bien faire au moment où il faut. Elle est très très exceptionnelle. Ça, c'est très très rare de voir une gymnaste comme ça. Généralement, c'est une fois tous les 50 ans ou bien plus, quoi. C'est très très rare. Et ce qui est bien, c'est que même une gymnaste aussi forte qu'elle, elle continue à progresser. Donc c'est sympa, quoi. Il y a des choses qui viennent très facilement, mais pour arriver à cette régularité sur les plateaux compétitifs et tout ça, il y a pas mal de répétitions et pas mal de travail derrière.
Voilà, deux nouvelles médailles. Donc pour Simone Biles, l'américaine à la poutre et au sol. Dans le même concours, la française Mélanie De Jesus dos Santos, qui était l'une des principales chances de médaille, a fini cinquième aux deux concours aujourd'hui. Alors le bilan, c'est une médaille de bronze, mais une qualification pour les JO pour Samir Aït Saïd aux anneaux. Il rejoint ainsi Cyril Thomazone et Loris Frasca pour ses prochains Jeux Olympiques. Les Françaises sont qualifiées par équipe, les Français non, mais d'autres individualités pourraient l'être via les championnats d'Europe l'an prochain.
Alors puisqu'on parlait des entraîneurs français, de sportifs étrangers qui gagnent, c'est aussi vrai dans le tennis.
On peut parler de Cory Gauff, 15 ans, 6 mois et quelques poussières, la jeune prodige américaine qui est entraînée par Jean-Christophe Forel a remporté aujourd'hui le tournoi de Linz en Autriche pour sa première finale sur le circuit féminin face à Yelena Ostapenko, la Lettonne, qui elle est dirigée, en tout cas conseillée par Marion Bartoli. On peut parler de Gilles Cervara, entraîneur de Daniil Medvedev, autre joueur de tennis, vainqueur du tournoi de Shanghai aujourd'hui, et pas face à n'importe qui, hein, Alexander Zverev, sans oublier bien sûr Patrick Mouratoglou, qui coach Serena Williams, qu'on ne présente plus.
Un marathon en moins de 2 heures, c'est l'un des exploits de ce week-end. Jean-Pierre, le Kenyan Kipchoge l'a réalisé hier à Vienne pour la première fois de l'histoire.
1h59.40, retenez bien ce temps. Le record ne sera pas homologué car il ne s'agissait pas d'un marathon classique. Mais l'exploit a été largement commenté dans le monde de la course à pied, notamment aujourd'hui, dans un marathon organisé en Seine-Maritime, entre les deux communes d'Amfreville-sur-Iton et Val-de-Reuss, en Normandie bien sûr, où Guillaume Batin a recueilli ses quelques réactions.
J'ai su qu'il avait un lièvre toutes les heures, etc. Mais finalement, moi, dans une course, je cherche un lièvre. Donc, j'admire ce qu'il a fait et je trouve que c'est... Je cherche un lièvre et il y a les drapeaux, il y a les meneurs d'allure, en fait, qui servent aussi de lièvre. Et finalement, c'est un peu l'équivalent.
C'était impressionnant déjà de le voir avec tous ces lièvres en flèche, bien à l'abri, avec le balisage au laser. Déjà, on se dit ah, c'est quand même un état d'esprit différent d'une course classique.
C'est exceptionnel parce qu'effectivement, on peut dire qu'il avait toutes les conditions possibles, faciles pour pouvoir le faire. Néanmoins, c'était ses jambes et il a fallu qu'il le court.
1h59.40, si je me souviens bien, c'est quand même beau. Donc voilà, il n'a pas été homologué parce qu'il n'était pas seul, mais c'est quand même vraiment exceptionnel et moi je félicite. C'est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, la première, si je le finis en 5 heures, je suis contente. Alors imaginez, non, c'est vraiment très très bien.
C'est incroyable. Moi, c'est complètement inenvisageable. Je me dis, c'est pas possible. 2 minutes 50 au kilomètre, je fais même pas ça en fractionné quand je suis au maximum du maximum. Et c'est incroyable, c'est incroyable. De toute façon, ici, les gens qui font le marathon mettent moins de temps que moi quand je fais un semi. Il court plus que deux fois plus vite que moi.
Petit échauffement sur 10 minutes.
C'était ses baskets et ses jambes. Donc ouais, non, c'est exceptionnel. Il aura marqué l'épopée des marathons. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'officialiser.
Voilà, et ce marathonien, donc, c'est Kipchoge, le Kenyan. Alors,
Marathonman.
Voilà, 2,50 au kilo, mon cher Yves Decamp. Ça fait plus de 20 km/h.
Oui.
Sur 2 heures. Je vous le mets au défi, hein. Bon, c'est pas facile. Ça, autre record, hein. Et comme un record ne vient jamais seul, aujourd'hui même, hein, le vieux record du monde du marathon féminin a été battu avec la Kenyane Brigid Kosgei, qui a parcouru le marathon de Chicago en 2h14 et 4 secondes. La dernière femme qui était donc détentrice de ce record du marathon féminin, c'était en 2003, la Britannique Paula Radcliffe.
Et ce record-là sera bien homologué.
Ah oui.
Allez, pour terminer, Jean-Pierre Lavoile, alors que se prépare la prochaine Transat Jacques Vabre, qui partira du Havre le 27 octobre, Francis Joyon a présenté son programme pour les mois à venir.
Et Francis Joyon et son maxi trimaran IDEC vont mettre le cap à l'Est. Première course contre le chronomètre entre Port-Louis près de Lorient et Port-Louis sur l'île Maurice. Ensuite, entre l'île Maurice et le Vietnam. Puis, entre Vietnam et Shenzhen en Chine pour terminer par Hong Kong, Londres. Plutôt que de s'inscrire sur des courses classiques, notamment dans la Brest Atlantique qu'il vient de décliner, le tenant du trophée Jules Verne, mais aussi le vainqueur de la dernière Route du Rhum, préfère de nouveau partir à la chasse aux records. Francis Joyon.
Les grands records, c'est aussi passionnant pour un marin. Déjà, Brest Atlantique n'était pas en place que nous, on avait mis en place cette idée de série de records en Asie. Il y avait eu un projet de Tour du Monde qui s'était écroulé. À la suite de ça, il y a eu un blanc et nous, il fallait qu'on avance. On a donc avancé vers ces records en Asie. Mais c'est vrai aussi que c'est très passionnant et très amusant de partir comme ça sur des destinations comme on va faire. Donc c'est un retour aux grands records. Il y a un côté aussi aventure découverte qui est passionnant dans cette série de records. Et bien sûr, Hong Kong-Londres qui là on retombe vraiment sur de la performance pure. Par exemple, sur Hong Kong-Londres, bon, on a une référence très forte avec Giovanni Soldini. Il faudra réussir à donner le meilleur de nous-mêmes et ça, c'est passionnant aussi.
Francis Joyon, donc cette semaine à Paris. Alors 26 jours, 2h37 minutes, c'est le record à battre pour Hong Kong-Londres, notamment. Un mot de Formule 1, victoire de Valtteri Bottas sur Mercedes devant Sébastien Vettel sur Ferrari. C'était au Grand Prix de Suzuka, circuit de légende au Japon. Là encore, le Grand Prix perturbé par les conséquences du typhon, puisque les essais avaient été décalés à ce matin. Et l'enseignement, c'est que Mercedes est assuré d'avoir le titre de champion du monde des constructeurs. Gilles Welles emporte le 113e Paris Tour cycliste. C'était aujourd'hui donc Arnaud démarre le français, quatrième, et puis Villeurbanne s'impose à Dijon en basket 79-70 et rejoint Monaco en tête du championnat de France.
Vous avez tout dit, c'est
Je
fini,
pense.
C'était le journal des sports de Jean-Pierre Blimeau, merci.